Y Parejo, atención a la pérdida, roba Correa, Correa desde el medio, Correa. William Carballo, el autopase, William, por Dios, qué gol. El golpeo y el bueno sin botón, otra vez de Courtois, espectacular. Dice el árbitro que no pasa nada, Rakitic, que va a golpear.
Salut à toutes et à tous, c'est Penaboy de retour avec les amis de Ligue Actu pour un podcast spécial 27e journée. Il y a beaucoup de choses à dire à l'approche de cette 27e journée, avec d'ailleurs un premier match hier nul entre Majorque et Osasuna. Pour en parler, qui d'autre que Ruben, fervent supporter de l'Athletic, et Sacha, supporter du Barça. Bonjour à tous les deux, content d'être là.
Salut, bah écoute, nickel, ouais, ça va parler de Liga, retour de Liga après la trêve, parce qu'il y a effectivement encore une fin de saison qui s'annonce et qui va être vraiment palpitante à tous les niveaux, donc évidemment très content d'être là pour parler de ce beau championnat qui est la Liga.
Idem, un vrai plaisir, et puis voilà, tu nous fais l'honneur de pouvoir présenter ce podcast, d'être là avec nous, donc la team est enfin réunie, ça fait plaisir tout simplement, et puis oui, dernière ligne droite, là les matchs vont s'enchaîner, ça joue à tous les niveaux, la descente, l'Europe, même le titre, on va en parler de suite après, mais c'est peut-être pas encore joué, donc voilà, un super podcast qui nous attend.
Ah ouais, bah sans transition, hein, tu viens de l'évoquer, le titre d'abord, je pense qu'on va commencer par là, avec ton club, hein, le FC Barcelone, qui a priori est loin devant, qui a priori a déjà le titre en vue, mais derrière il y a quand même deux équipes qui sont toujours présentes, hein, et notamment le Real Madrid. Alors pour vous, et notamment pour toi Sacha, est-ce que le titre peut encore échapper au Barça ?
Tant que mathématiquement c'est pas fait, on peut toujours avoir des doutes. Il y a quand même 12 points d'avance, mais 12 journées encore disputées. Oui, c'est ça, 12 oui. Journées encore disputées. Il reste un match face à l'Atlético de Madrid. Il reste le match face au Real Betis, il reste un match face à la Real Sociedad. Bon, on ne sait jamais, quoi. C'est sûr qu'avec un match par semaine, l'équipe devrait petit à petit retrouver 100% de ses forces, vraiment avec des joueurs reposés, des joueurs en retour de blessure. C'est une équipe qui a réussi à faire le dos rond dans certains matchs qui étaient compliqués, à prendre les points. Et c'est vrai que cette victoire dans les dernières minutes du Classico, en plus j'ai eu le bonheur d'y assister depuis les tribunes, ça a vraiment donné un espèce de coup décisif à la Liga, parce que c'est sûr que 12 points sans confrontation directe, on peut potentiellement penser que maintenant les jeux sont faits, mais il y a ce match un peu compliqué du côté d'Elche. Alors c'est vrai qu'Elche est tout en bas du classement, mais ils viennent de changer d'entraîneur, ils ont eu 2 semaines pour se préparer, c'est un peu l'opération commando. Du côté du Barça, il y a des joueurs qui sont sur le carreau comme Pedri, Dembélé, Christensen, Frenkie de Jong. Voilà, c'est une équipe qui va aussi beaucoup tourner, et c'est souvent le genre de match un peu grain de sable où tu peux faire un match nul ou même perdre la rencontre parce que en face ils jouent un peu le match de leur saison, voire de leur vie. C'est l'année du centenaire pour Elche, et on se fait pas beaucoup d'illusions, hein, sur leur chance de rester en première division. Alors peut-être pour faire un cadeau à leurs fans aussi, une victoire de prestige face aux champions déjà annoncés, ce serait possible. Donc voilà, il faut prendre les points qui sont encore à prendre. Il y aura potentiellement un match pour le titre, on en parlait juste avant ce podcast, du côté de l'RCL Stadium de l'Espagnol, ou alors lors de la réception de la Real Sociedad, de la chère Real, au Camp Nou. Donc voilà, il faut prendre les points jusque là. C'est vrai que le Real Madrid de son côté a encore la Ligue des Champions à jouer. Il y a cette demi-finale de Copa aussi qui peut-être peut aussi être assez importante au niveau du mental pour cette fin de championnat, pour l'une et l'autre, pour les deux équipes tout simplement. Voilà, celle qui ira en finale, je pense, aura vraiment définitivement pris l'ascendant psychologique. Mais oui, c'est sûr que cette année, le titre est quand même en très bonne voie, on va pas se mentir. Ça fait 2-3 ans maintenant qu'on fait des podcasts tous ensemble, et c'est la première fois que je me retrouve dans cette situation. Voilà, on est très contents, et ce sera intéressant aussi de voir le comportement de certains joueurs comme Ansu Fati, comme Ferran Torres, voilà, des joueurs qui sont un peu donnés sur le départ, avec qui il y a quelques polémiques, si eux aussi sont capables de tirer leur épingle du jeu et d'apporter, pendant que les titulaires sont un peu sur le côté, les points qui vont manquer au Barça pour définitivement clôturer ce titre. Mais oui, en tout cas, on peut dire. On a du mal maintenant à imaginer le titre s'échapper de Catalogne. Et peut-être que même ce sera une saison à deux titres, avec la reconnaissance aussi, pourquoi pas, de la Liga de 1937. On a vu que le Levante avait reçu la coupe. Donc maintenant, le Barça aussi devrait recevoir la Liga. Donc peut-être une fête sur le plan national cette saison pour le Barça, avec déjà la Supercopa, potentiellement la Copa et pourquoi pas deux Ligas.
Tu le disais, une année qui pourrait être riche en titres pour le Barça. Ruben, est-ce que tu as le même constat là sur cette fin de saison qui il y a peu de chances que ce titre échappe au Barça malgré les voilà les 12 points qui les séparent et bien sûr les 12 journées qui restent à jouer ou alors tu es un petit peu plus modéré?
Non, bah effectivement, je pense que Sacha a tout dit. Et puis moi, j'étais sur le podcast de Temps Additionnel il y a 2 3 jours de ça et j'en parlais aussi. Mais effectivement, j'ai du mal à voir comment ce titre maintenant pourrait échapper au Barça. C'est vrai que la saison en soi, c'est vrai que 12 matchs est encore beaucoup dans une saison de 38 journées. Mais le Barça a montré jusqu'à présent une telle supériorité dans beaucoup de domaines, même en sachant souffrir, cette équipe a réussi à gagner beaucoup de matchs et on l'a vu ces derniers temps, des scores qui, bah voilà, la plupart du temps sont serrés et notamment on voit qu'il y a eu ce record de victoire sur le score de 1-0 qui a été battu tout simplement et ça montre que cette équipe, même sans parfois être toujours grandiose et sans parfois proposer toujours un jeu qui a convaincu le supporter, a réussi à s'en sortir et je pense que aussi ça être champion et pour moi le Barça cette saison a réuni toutes les conditions, réuni toutes les armes aussi un peu pour être champion parce que en face on a vu un Real Madrid qui bon certes était au coude à coude il y a encore quelques temps mais qui voilà depuis le retour du mondial quand même en Liga me paraît beaucoup moins imposant. Il y a eu pas mal de déceptions et puis là les récentes évidemment c'était la défaite dans le Classico puis il y a eu même tous ces matchs nuls face au Betis et à Atlético quelques semaines plus tôt qui pareil auraient dû être des matchs normalement remportés. Donc pour ces raisons-là moi je pense que le Barça pour ce qui a été montré jusqu'à présent et puis pour ce qui reste à venir je pense que le Barça effectivement va gagner la Liga. Maintenant il y a encore effectivement des quelques rencontres difficiles à négocier. C'est vrai que le match contre Elche qui arrive est pas forcément le plus difficile sur le papier mais Sacha l'a bien dit, c'est une équipe aussi qui maintenant, a plus grand-chose à perdre, à part bah, voilà, une possible place en deuxième division qui quand même est très annoncée. Mais c'est vrai que les équipes de bas de tableau sont souvent parfois les plus dangereuses en fin de saison. Et en tout cas, je pense que ça pourrait être le cas là. Après, pour ma part, je ne me fais pas de soucis pour le Barça, même si jamais il devait y avoir une mauvaise surprise dans ce match-là. Je pense que au final, la finalité sera que le Barça sera champion. Sur ça, en tout cas, j'ai pas trop de doutes. Et puis on sait que le Real, voilà aussi. La Ligue des Champions à côté, on sait que c'est une équipe qui voilà, peut afficher un visage très différent de ce qu'elle affiche en Liga dans la Ligue des Champions. Donc je pense honnêtement que le Real Madrid, même si officiellement on ne se revendique pas comme vaincu non plus, mais voilà, le Real Madrid aura aussi la tête à l'Europe et pas qu'à la Liga. Donc pour moi, il n'y a plus tellement de suspense en tout cas sur le titre sur cette fin de saison. C'est peut-être le seul endroit du classement, on va dire, où il n'y a plus trop de suspense. Mais après, voilà, le Barça, je pense, a mérité son titre pour l'instant. Et voilà, on est début avril. Maintenant, il reste encore presque,
Tout
ouais,
à fait, on fera le
deux.
bilan
Ouais, c'est ça.
un petit peu plus tard hein, dans la saison, bien entendu, quand on sera peut-être à la 30e journée. Hein, mais c'est vrai que là, vous le disiez, Elche, qui n'est pas forcément l'adversaire le plus redoutable ce soir là, contre le Barça. Le Real, de son côté, devra affronter Valladolid, qui est 16e et qui a beaucoup, beaucoup à perdre sur cette rencontre, hein, puisque, on va le dire. Valladolid est à quelques points au-dessus de la zone de relégation, mais tu le disais, Ruben et Sacha aussi juste avant. Je pense que toutes les la fin de classement, la course à l'Europe, tout est encore à jouer, sauf presque le titre finalement. C'est un petit peu ce que l'on va résumer en fait de cette première partie, de cette première question là que vous nous avez un petit peu décortiquée. Et il y a un autre élément qui n'est pas forcément le classement par équipe, mais il y a le classement individuel, et notamment des buteurs, qui est pareil, qui est très très serré, avec toujours un joueur du Barça qui est devant, c'est Robert Lewandowski. Mais derrière, il y a peut-être l'une des révélations, voire les deux révélations de la saison sur le front de l'attaque, hein, Enes Unal notamment, qui sont en chasse patate. avec Rossellou, hein, qui a été appelé là, durant la trêve et qui a mis un beau doublé d'ailleurs. Est-ce que pour vous, cette course au Pichichi, hein, elle est enfin lancée? Est-ce qu'on va avoir peut-être la fin de la suprématie Benzema qu'il y avait ces dernières années?
La suprématie Benzema, bon, il en a gagné un. Après, sinon, c'était Messi lors de sa dernière saison. Mais oui, c'est sûr que l'année dernière, il était vraiment le seul grand attaquant de ce championnat, du moins le seul qui marquait les buts. Bon, Luis Suarez était vraiment sur la fin du côté du Barça. C'était pas Memphis ou même la moitié de saison qu'a fait Aubameyang qui allait lui faire du mal. Non, cette année, c'est sûr que Lewandowski, il est leader, il est venu pour ça. Ses 3 ou 4 premiers mois étaient vraiment très très bons, avec beaucoup de très bonnes performances, des buts décisifs, des doublés. Et depuis la Coupe du Monde, je crois qu'il n'a marqué que 2 buts en Liga. C'est assez faible, c'est assez frustrant. On ne va pas se mentir, moi je m'attendais à ce que vers la 27e journée, il soit quand même plus de 15 buts, peut-être 20, entre 20 et 25. Maintenant, c'est sûr que c'est une course ouverte parce que, comme tu l'as dit, il y a de très très bons concurrents. Enes Unal qui marque but sur but avec le Getafe et Joselu pareil avec l'Espagnol. C'est en plus 2 joueurs qui évoluent un peu dans des équipes similaires. Il y a des équipes qui se battent pour ne pas descendre, qui ont bien compris que ces deux-là étaient leurs meilleurs joueurs et qui leur donnaient tous les ballons. Ils ont aussi, entre guillemets, cet avantage-là. À voir aussi si Joselu réalisera la triste performance qu'il avait fait l'année dernière, c'est-à-dire marquer énormément de buts, mais voir son équipe descendre quand même. Ça avait été le cas avec Alavés, à voir si ça le fera avec l'Espagnol aussi. Mais il y a aussi Borja Iglesias, mine de rien, dans ce classement. Et puis Benzema, parce que même si Benzema vit une saison compliquée, il est critiqué, il s'est souvent blessé, on sent qu'il a du mal à récupérer de la saison extraordinaire qu'il a fait l'année dernière. Il n'est jamais qu'à 4 buts. On peut imaginer qu'avec un doublé ou un triplé contre Valladolid et une mauvaise performance de Lewandowski, tout peut vraiment se jouer sur les 11 dernières journées. Mais oui, je pense que c'est une course qui va vraiment se lancer là dans cette dernière partie de saison avec des joueurs qui ont faim de ce titre. Lewandowski doit planter tout simplement. Voilà, c'est comme j'ai dit, 2 buts depuis janvier, c'est pas suffisant. Alors ok, il a eu des matchs de suspension. Pardon. Il y a aussi le changement de système qui ne le favorise pas. Début de saison, le Barça jouait en 4-3-3. Il y avait quand même beaucoup plus de poids offensif. Là, depuis le passage en 4-4-2, avec vraiment le milieu renforcé, on sent bien que devant, il doit faire beaucoup plus d'efforts. Il est beaucoup moins mis dans de bonnes dispositions devant la cage adverse. Il doit beaucoup courir. C'est ce qui m'avait vraiment marqué lors du Classico, c'est qu'on voit un attaquant qui, de la première à la dernière minute, donne tout, ne s'économise sur aucune course, ne s'autorise aucun relâchement. Et donc peut-être qu'aussi ça a un impact sur sa lucidité quant au moment de finir. Bon, il y a aussi Thibaut Courtois lors du Classico qui a quand même sorti 2 belles parades. Mais voilà, je pense qu'il pâtit un peu de ces deux facteurs, même si on attend plus. Donc voilà. Pour le moment, c'est vrai que c'est une course qui est un peu décevante. Disons que la suprématie au classement du Barça pourrait laisser penser à une suprématie aussi dans cette catégorie. Pour moi, ce n'est pas le cas. Donc à voir lors de ces 12 dernières journées ce qui va se passer. Mais en tout cas, il est favori pour le faire. Et on espère, bien sûr, du côté de la Catalogne, qu'il ramènera en plus cette petite distinction honorifique.
Ouais, c'est ça, parce que juste pour préciser, hein, Lewandowski, c'est 15 buts en 22 matchs. Benzema, c'est 11 buts en 16 matchs. Donc, meilleur ratio pour Karim Benzema. Cependant, comme tu le disais, Benzema, on le sent un petit peu plus émoussé cette saison. Il y a d'autres joueurs. Hein, tu nous as parlé d'Enes Unal, de Rossellou. Tu as évoqué aussi Borja Iglesias. Il y a un joueur que Ruben aime bien aussi, c'est Iago Aspas, hein, qui est toujours présent dans le classement des meilleurs buteurs. Est-ce que vous pensez que on pourrait avoir un Espagnol qui est Pichichi cette saison?
Alors Pichichi, ça me semble quand même compliqué parce que ça serait synonyme pour moi de finir devant quelqu'un comme Lewandowski qui, bon, alors c'est vrai, vraisemblablement bon, il n'avance que 2 buts sur Enes Unal. Après, effectivement, je pense que s'il y a une saison où c'est le moment, je pense que c'est celle-ci parce que, effectivement, bon, Benzema n'est pas au même niveau que l'année dernière, on l'a dit. On voit bien que Lewandowski, voilà, marque moins ces derniers temps et effectivement, Sacha présentait très bien la situation. Je pense que tous les gens qui suivaient la Liga s'attendaient à ce que Lewandowski, au vu de sa première partie de saison, notamment qui était monstrueuse, continue d'enchaîner. Après, c'est vrai que moi, j'ai du mal à imaginer quelqu'un comme Aspas ou Borja Iglesias ou même Rossellou terminer enfin, en tête du classement, parce que ce sont des joueurs, certes, qui marquent beaucoup, mais après, qui sont dans des équipes. Peut-être pas pour Borja Iglesias, qui est dans une équipe qui joue vraiment le haut de tableau, mais qui sont des équipes, notamment pour Aspas avec le Celta, pour Rossellou avec l'Espagnol, qui sont des équipes assez régulières en fait. Et on voit bien que même si eux, en tout cas, tirent beaucoup vers l'avant leur équipe, que ça dépend pas malheureusement que d'eux. Après, Borja Iglesias, j'ai pareil, ça me semble compliqué de le voir finir en tête, mais en tout cas, je pense que c'est l'année ou jamais, parce que cette année, la lutte est vraiment ouverte, et puis on voit bien qu'il y a énormément de joueurs qui peuvent s'y mêler. C'est vrai que bon, derrière, il y a aussi Morata qui est pas très loin, et même Gabriel Veiga qui fait pareil, une super saison avec le Celta. Donc ce sont voilà, des joueurs aussi qu'il faut surveiller. Moi, je pense quand même que quelqu'un comme Lewandowski terminera Pichichi ce championnat cette saison. Mais effectivement, c'est pas exclure, parce que même voilà, quelqu'un comme Borja Iglesias, c'est vrai par exemple, avec le Betis, on voit bien que c'est un joueur, même quand l'équipe va moins bien, qui est capable de marquer le but qui va suffire à faire la différence. Donc voilà, ça peut être aussi des joueurs qui sont capables de faire des différences et de permettre à l'Espagnol de remporter le Pichichi, même si ça me semble cette saison. Mais en tout cas, ça sera très serré. Et puis voilà, c'est vrai qu'il y a National, pour en dire deux mots rapidement, qui bon, certes n'est pas espagnol, mais 9 buts depuis la reprise du mondial, c'est peut-être voilà le joueur en forme de cette dernière semaine, et en tout cas attention à lui.
C'est ça, tout à fait, et tu le disais très bien, c'est vrai que ce sera... Oui, vas-y, vas-y, Sacha.
Voilà. C'est que bon, il y a peut-être une seule personne du côté du Barça qui serait content si Lewandowski n'avait pas ce titre de Pichichi, ce serait peut-être le comptable. Parce qu'il y a un bonus, je crois, de 2 millions d'euros, quelque chose comme ça, au Bayern, si jamais Lewandowski est Pichichi. Donc voilà, peut-être que le comptable, lui, se dit qu'il serait mieux que Lewandowski arrête un peu de marquer, mais que le titre tombe quand même. Donc, mais non, sinon, je pense que voilà, tout le monde serait très content à Barcelone.
Ouais, et puis c'est vrai que la seule peut-être personne qui semble pouvoir arrêter Lewandowski, vous le disiez, c'est peut-être Enes Unal, ou une blessure, puisqu'on le dit, hein, il reste quand même 12 journées. 12 journées, ça laisse pas mal d'opportunités. Il faudra voir que tous ces joueurs soient vraiment épargnés. Et Sacha, est-ce que tu penses que Lewandowski pourrait justement être amené à jouer un petit peu moins si le Barça est assuré très rapidement de gagner le championnat?
Non, je pense qu'il va, vu qu'il n'y a pas de compétition européenne et qu'il reste qu'un seul match de Copa, je pense qu'il va jouer tous les matchs, il est là pour ça. Il y a eu une période de la saison où c'était vraiment très compliqué. À l'image de tout le monde, il a aussi un peu tiré la langue et il s'est blessé pendant 2 semaines. Au final, l'équipe a, comme on l'a dit, réussi quand même à garder le cap et à engranger les victoires. Mais non, je pense qu'il est parti pour tout jouer. Du moment où il sera apte, il va tout jouer. Voilà, c'est aussi le joueur qui est venu pour ça, hein. Quand il a été recruté, c'est vraiment la star de la Porta, le joueur qui doit redonner espoir, qui doit réimprimer un peu la domination du Barça. Donc non, je pense que s'il y a bien un joueur qui jouera jusqu'au bout, ce sera lui.
Très bien. Et bah, puisqu'on est sur les performances individuelles, là, on parlait des buteurs, avec notamment un Enes Unal qui performe plus que jamais depuis le retour de la Coupe du Monde. Quand on regarde du côté des passeurs, c'est un certain Antoine Griezmann qui est en tête à égalité avec Mikel Merino. Antoine Griezmann, on a tous vu le regain de confiance et le regain de forme depuis son retour de Coupe du Monde. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur joueur depuis le retour du Mondial? Il a notamment été nommé la Ruben ce mois-ci joueur du mois. Pour toi, Antoine Griezmann est-il le joueur de cette deuxième partie de saison?
Bah oui, je pense que de toute façon, si c'est pas lui, ça peut être Kenneth Sounal, mais oui, moi je te dis Antoine Griezmann, parce que on voit bien que son moment de forme assez impressionnant coïncide quand même beaucoup avec le moment de forme excellent de l'Atlético, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça, mais l'Atlético est invaincu en Liga depuis cette défaite face au Barça, une défaite qui avait été difficile en plus en début janvier. Donc oui, pour moi, je pense que Griezmann, c'est tout simplement le meilleur joueur de Liga depuis la reprise du Mondial. Déjà, on a déjà beaucoup parlé, mais à sa Coupe du Monde qui avait été vraiment très bonne. Et ensuite, on a vu que bah, voilà, ce qu'il faisait à l'Atlético, non seulement en termes enfin, non seulement dans le jeu, et puis même en s'illustrant à travers des buts et des passes décisives de manière chiffrée, on voit bien que c'est quelqu'un qui répond complètement à ce qu'on attend de lui. Et puis voilà, on voit bien qu'il est en confiance. En plus, Simeone et tout le club lui accordent quand même une certaine confiance. Évidemment, c'est quelqu'un qui est respecté et connu à Atlético, donc forcément, il a un statut particulier. Mais on voit bien que voilà, au-delà de ça, il a quand même réussi à retrouver le. On a quand même réussi à retrouver le Griezmann qu'on voyait avant. Et je dirais même que là, il a un niveau, ouais, un des meilleurs moments de sa carrière, assurément, parce que on voit bien que même dans sa façon de jouer, il est relativement décontracté. En même temps, il arrive à faire des matchs qui sont superbes. Voilà, le seul qui, pour moi, pourrait lui apporter un peu de concurrence, si vraiment on parle de meilleurs joueurs depuis le mondial, c'est comme je disais, Nesnouel qui, effectivement, lui enchaîne les buts. Et bon, qui après, certes, n'a pas le même poste que Griezmann non plus, mais c'est vrai que non, Griezmann. Moi, je n'ai pas grand-chose à en dire. Tout simplement, c'est un joueur qui fait un super, une super seconde partie de saison. Même sa saison, de manière générale, est plutôt bonne. Mais c'est vrai que depuis le mondial en particulier, c'est bon. Et voilà, moi, je parle notamment souvent de ce match qu'on avait vu face à Valladolid. Là, le fameux 3-0, il y avait enfin, 3 buts au bout de 30 minutes. Et il est impliqué sur les 3 buts. Donc voilà, c'est le genre de choses qui témoignent aussi de la forme d'un joueur, sachant que c'est pas quelque chose qu'il a fait qu'une fois non plus, mais c'est une performance qu'il a rééditée à plusieurs reprises. Donc non, non, forcément oui, Griezmann et puis assez largement, je pense, parce que c'est voilà, c'est un joueur en tout cas qu'on prend plaisir à avoir joué et qui peut être différentiel à tous les moments d'un match. Donc évidemment, ouais, Antoine Griezmann.
Tu le disais, Antoine Griezmann qui participe à la superbe forme de l'Atlético, hein, l'Atlético qui est revenu à 5 points du Real Madrid, l'Atlético qui est une des seules équipes là, qui, sur les 5 derniers matchs, n'a pas perdu, puisque on le sait, hein, le Barça, le Real ou même la Real Sociedad derrière ont tous perdu. Ça a permis à l'Atlético et notamment au Betis de se remettre en course pour la Champions League notamment. Deux équipes, donc l'Atlético et le Betis, qui vont avoir une grosse fin de saison. Ce sera aussi le cas au niveau de l'Athletic Bilbao, Ruben, ton équipe qui est toujours en course, même si c'est un petit peu plus compliqué pour la Conference League ou l'Europa League. Comment tu vois, toi, cette fin de saison et notamment la rencontre cruciale là, qui arrive contre Retafe, qui est une équipe qui, de son côté, Sacha le disait aussi tout à l'heure, va certainement avoir beaucoup à faire pour éviter la descente, quand on voit que Valence, qui est le premier relégable, est à 26 points alors que Retafe n'a que 3 points d'avance.
Ben oui, forcément, c'est une rencontre compliquée. Et puis en plus, il y a évidemment ce fameux joueur dont on parlait, Nesnouel, qui est là et qui enchaîne les buts. Et forcément, ça peut, je crois, que faire peur, un peu, si on peut le dire comme ça. Ben effectivement, on aurait taffé qui est une équipe de bas tableau qui, comme je l'ai dit aussi, n'a plus grand-chose à perdre maintenant. Ils sont certes pas dans la zone rouge, mais ils sont dans une situation qui n'est pas forcément très bonne non plus, même s'ils vont mieux ces derniers temps et qu'ils sont sortis de la zone de relégation. Donc forcément, moi, ce match, pour commencer d'abord par ça, c'est un match qui est important parce que Atlético, bon, avait réussi à se relancer avant la trêve et Dieu merci parce qu'il en on avait besoin avec une victoire à Valladolid qui bon, a entretenu les espoirs européens, mais on voit bien que ça va être compliqué parce que bon, la Ligue des Champions qui n'a jamais été vraiment un objectif et maintenant est complètement hors de portée. L'Europa League, donc, bon, on va dire la cinquième place pour le moment, était pour moi un des objectifs. Mais voilà, ça va être aussi quelque chose qui me semble compliqué parce que le Betis va à une forme, va à une vitesse très rapide et qu'on n'a pas été capable de la suivre. Il y a 9 points d'écart. Et puis après, Villarreal à la sixième place, il y a 5 points. Villarreal, on sait qu'avec Setién, c'est pas forcément l'équipe la plus stable, mais c'est une équipe qui, mine de rien, voilà, on attend peut-être plus de Villarreal, mais Villarreal en tout cas va vraisemblablement être européen à nouveau cette saison. Non, maintenant, la vraie lutte pour moi va se situer autour de la 7ème place, et encore que cette 7ème place dépendra de qui remporte la Copa, et vraisemblablement, ça sera probablement une équipe qui est déjà européenne, en tout cas on l'espère, parce que sinon, si c'est pas Atlético, en tout cas on espère que ce sera une équipe européenne pour permettre de déverrouiller cette 7ème place. Mais effectivement, il va rester pour moi la bataille pour la Conference League, et ça, je pense que Atlético a les armes pour ça, parce que c'est vrai que cette saison, habituellement, on a l'habitude d'avoir Séville qui est devant. Cette saison, Séville n'est pas là, donc au vu des concurrents directs, on est peut-être les mieux armés. Mais après, je dis attention parce que une équipe comme le Celta qui revient très fort, il y a Osasuna qui évidemment est une équipe aussi très difficile à jouer, le Rayo, pareil. Bon, même si j'ai du mal à imaginer le Rayo en Europe, c'est une équipe qui voilà, avec Iraola, fait des super choses aussi. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'on va se focaliser sur la 7e place maintenant en croisant les doigts. Et à côté de ça, il y a quand même, voilà, évidemment, toujours ce match très important qui arrive la semaine prochaine contre Sassouna. La demi-finale retour de Copa, je pense que d'ailleurs, le match de ce samedi sera très marqué par ce qui se préoccupe, enfin, par ce qui se profile en tout cas avec la rencontre contre Osasuna, parce que je pense que même si les joueurs et le staff ont répété que le match de l'instant c'était Rétafé et c'est la vérité, je pense que quand même beaucoup ont la tête aussi à ce qui va se passer contre Osasuna. On rappelle qu'il y a quand même un score, bon certes pas incroyable, mais 2-1-0 à remonter, et c'est jamais facile, surtout quand on sait que Osasuna avait réussi à décrocher un nul 0-0 à San Mamés en début de saison. Donc voilà, il va rester cette lutte pour la 7e place pour moi, parce que ce sera compliqué de viser plus haut en termes de régularité et de qualité. Cette équipe, pour moi, peut pas vraiment faire beaucoup mieux, malheureusement. En tout cas, vu l'écart qu'il y a maintenant, ça me semble compliqué. Et donc
Comment
à
tu vois
côté de
la
ça.
rencontre contre Rétafé là justement cet après-midi là, Rétafé qui est quand même sur une meilleure forme que vous, hein, avec 10 points pris sur les 5 dernières journées. Vous êtes à 4 points pris. Tu
Ouais.
disais que Nsounal te fait assez peur. Comment tu le vois toi ce match de ce samedi?
Ben, moi, ce qui me fait un peu redouter ce match, c'est évidemment le fait que en fait, d'un côté, Rétafé, comme je le disais, soit à fond pour le maintien, et que nous, je pense, on est la tête, enfin, beaucoup trop, en tout cas, du côté de la Copa. Après, je le vois dans le sens où je pense que Rétafé va, en fait, pas avoir peur de grand-chose, et que ils vont, en fait, assez vite prendre l'initiative du jeu. Ça a beau être à San Mamés, mais moi je répète qu'une équipe comme Rétafé qui peut avoir de la fougue et qui peut voilà enfin jouer sans avoir peur, ça peut faire beaucoup de mal. Et on sait que l'Athletic justement a pas forcément beaucoup de réussite face à ces équipes là qui sur le papier certes sont pas favorites, mais qui en fait une fois sur le terrain sont en fait bah, beaucoup plus dangereuses. Moi c'est de cette manière-là un peu que je le vois. Je pense que l'Athletic va effectivement être beaucoup sollicité défensivement, et en tout cas il va falloir serrer les rangs derrière. Et je pense que après ce qui fera la différence, c'est évidemment des joueurs comme Sanchez ou Muniain ou même Nico Williams qui sont les vrais joueurs différentiels de cette équipe. Mais même si je pense qu'on peut réussir à ne pas prendre de but ce samedi, maintenant parce que c'est une rencontre très compliquée et qu'en final on marque peut-être assez rapidement ou pas d'ailleurs, mais qu'au final l'Atlétique puisse l'emporter, en tout cas en souffrant, parce que j'imagine mal cette Atlétique dominée de A à Z Rétafé, même si évidemment c'est ce que j'espère aussi, mais ça me semble compliqué parce que Rétafé a quand même voilà, une certaine pression qu'on a aussi, mais en même temps je pense que Valverde et surtout son coaching ces derniers temps qui a été assez critiquable va aussi beaucoup économiser pour la Copa, et c'est ce qui fait pour redouter ce match. Donc je pense qu'on est en mesure de l'emporter, et il faudra de toute façon, mais en même temps je nous vois mal ne pas souffrir, en tout cas face à une équipe comme Rétafé qui est dans une situation bien différente et en plus qui surtout a plus de
Histoire
confiance
compliquée, du
dernièrement.
coup, si on t'écoute, hein, Ruben.
C'est ça exactement.
Très bien. Eh bien, écoute, on vous souhaite le meilleur pour cette rencontre. Sacha, avant de passer sur une course à l'Europe qui va être complètement folle avec deux matchs cruciaux ce week-end, et notamment dimanche, Villarreal, Real Sociedad et l'Atlético Betis, qui vont certainement être plus que décisifs pour les places de Champions League notamment. Tu as évoqué tout à l'heure Elche comme possible équipe, voire équipe déjà condamnée. Derrière la descente, il y a Almeria, il y a Valence, il y a l'Espagnol, il y a Valladolid, il y a Cadiz, il y a le Sevilla, il y a Rétafé qui sont tous quasiment à 10 points les uns des autres. Enfin, entre Rétafé et Valence, il y a un petit peu plus de 10 points, il y a 13 points. Mais sinon, on sent que. Pardon, qu'est-ce que je dis? Il y a seulement 3 points
Ouais, 3
entre
points.
Rétafé et Valence. Et vu ce qui reste, est-ce que c'est possible pour vous de faire déjà un petit pronostic de qui va descendre ou pas?
Oui, je pense que on peut le voir. Bon, déjà, tu l'as très bien dit, on en a déjà parlé. Elche, on va pas se mentir, à moins d'un miracle absolu, c'est malheureusement la descente pour l'année de leur centenaire. C'est terrible, je pense qu'ils s'en souviendront longtemps, mais c'est comme ça en même temps. C'est, je crois, maintenant le quatrième coach, hein, différent cette saison qui va prendre le banc. C'est une équipe où il y a eu des tentatives de fait au mercato, mais on sent que c'est plus aux mains d'agents qu'il y a une vraie logique sportive, quoi. C'est un club à la dérive qui, ben, qui cette année va se voir condamné à descendre en deuxième division. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont à la lutte. C'est une lutte même frénétique, on peut dire, pour ne pas descendre. Le Valencia est dans une situation catastrophique. Alors, on a quand même l'impression que ça va un peu mieux, mais je pense que eux, ça peut se jouer jusqu'à la dernière minute du dernier match. Parce que c'est voilà, défensivement, c'est très très faible. Au milieu de terrain, il n'y a pas grand-chose. Alors après, c'est sûr que devant, avec potentiellement le retour de Cavani, avec Justin Kluivert, avec Samuel Lino, on se dit qu'il y a quand même beaucoup trop de qualité pour que ça descende. Mais voilà, il y a eu beaucoup de matchs extrêmement décevants. C'est une équipe qui a pas vraiment la confiance. On sent pas qu'il y a une émulation collective. On sent aussi que c'est un projet qui est juste un projet de passage, en fait, un tremplin pour certains joueurs, ou alors vraiment d'amorce de fin de carrière pour d'autres. Donc c'est compliqué. Ce serait vraiment terrible pour la Liga de voir Valence tomber. C'est quand même un club énorme, mais peut-être que ce serait aussi un mal pour un bien, dans le sens où ça permettrait éventuellement de dire au revoir à Peter Lim et d'avoir enfin des gens qui aime le club à sa tête, parce que c'est ce qui se passe là-bas est totalement dramatique. On le voit encore cette semaine avec pareil tous les scandales qu'il y a au niveau du nouveau stade. On ne sait toujours pas où est-ce que ça en sera. C'est un projet qui a été un peu enterré, qui est remis un peu au goût du jour par la mairie, qui elle aimerait bien quand même que le club avance, mais voilà, quand il n'y a pas de volonté de bien faire les choses, on se retrouve souvent dans cette situation. La presse valencienne est extrêmement critique, et peut-être que cette catastrophe institutionnelle pourrait se matérialiser par une descente sportive. Maintenant, il y a le Sevilla aussi, pour rester dans les gros clubs, qui se retrouvent dans cette situation. Alors, je pense quand même, mine de rien, qu'avec Mendy Libar, ça devrait le faire. C'est quand même une équipe qui a beaucoup, beaucoup de joueurs de qualité. Oui, Monchi a loupé son mercato, on en a déjà parlé à travers d'autres podcasts, mais voilà, ça reste quand même une équipe qui a démarré la saison en Ligue des Champions, qui est en quart de finale de Ligue Europa. Alors oui, ils sont passés dans des trous de souris contre le PSV Eindhoven et contre Fenerbahçe, mais mine de rien, ils sont là quand même. Je pense que Sampaoli n'était pas un entraîneur taillé pour la mission maintien. Je pense que jusqu'au bout, enfin jusqu'à sa nomination, pardon, le board de Sevilla n'avait pas conscience du danger. Là maintenant, voilà, ils se sont dit qu'il y avait vraiment urgence, qu'il fallait relancer la machine. Je pense que Mendy Libar est un entraîneur qui peut permettre au club de ne pas descendre. À voir ce qui sera fait après au niveau de l'été. Ça parle d'Iraola, ça parle d'autres profils pour relancer un nouveau cycle. Mais voilà, je pense quand même que le Sevilla devrait normalement se sauver. Ce serait vraiment une catastrophe absolue pour eux si jamais ils descendaient. Et là, par contre, encore plus pour la Liga, ce serait vraiment perdre un club de dimension Ligue des Champions. Ce serait ouais, un gros problème, parce que même économiquement, c'est quand même une force du championnat. Le Sevilla, c'est pas n'importe quoi. Donc, à voir maintenant. Bon, on pense à tous les Béticos qui nous écoutent, qui seraient ravis d'un retour d'ascenseur, eux qui étaient descendus il y a quelques saisons et qui maintenant se battent pour une place en Ligue des Champions. On y viendra juste ensuite. Et puis non, il y a le Cadiz aussi, qui, moi, me fait plaisir. Enfin, après 2 ans de présence en première division, avec un jeu souvent très haché, très rude, qui ne laissait pas beaucoup de place à l'expression de talent individuel. Là, il y a vraiment eu un mercato réussi, à mon sens, peut-être le meilleur mercato d'hiver des 20 équipes de Liga. Ils ont acheté beaucoup de joueurs, et on sent que c'est une équipe qui essaye d'aller vers l'avant. Moi, leur match à San Mamés, alors c'était une défaite 4-1, mais il m'avait plu, parce que c'était plus une équipe qui jouait vraiment derrière. Voilà, ils essayent d'aller devant, d'aller vite en transition. J'ai regardé leur match face à Almeria aussi, un partout. Ils méritaient mieux. Un pénalty coupable à la 93e minute leur empêche de repartir avec le succès. Mais voilà, c'est une équipe qui joue, et je pense que les équipes qui jouent sont au final toujours un peu récompensées. Et enfin, ben pour vraiment tomber dans mon pronostic des descentes, je pense qu'il y a le Getafe, parce que je pense que Getafe, cette saison, le message de Quique Sanchez-Flores a vraiment du mal à passer. On sent que la solidité défensive n'est plus là, et c'était une équipe qui se basait vraiment sur ça. Alors oui, il y a Enes Unal et Borja Mayoral qui masquent un peu les carences de l'équipe en marquant but sur but. Ils sont dans des formes exceptionnelles, on en a parlé, mais voilà, je pense qu'au milieu de terrain, c'est faible, et derrière, ça l'est aussi. Pour pourtant, il y a quand même des joueurs de bonne qualité. Mais voilà, je pense que le message, surtout de Quique Sánchez-Flores, n'est plus bon, n'est plus compris par ses joueurs. Et les concurrents, eux, sont dans des meilleures formes. Je trouve du moins qu'il y a une meilleure osmose dans leur équipe. Et mon troisième, ben c'est l'Espagnol. Un souhait, bien sûr. Désolé, Eloy, mais ça va pas te surprendre. Mais voilà, c'est une équipe qui est, à mon sens, complètement à la dérive aussi. Alors, c'est un vrai paradoxe parce que eux, par contre, ligne par ligne, on pourrait se dire qu'il y a des joueurs très intéressants. Mais voilà, le message de l'entraîneur passe pas. Et puis, il y a une fébrilité défensive qui est terrible. Il y a Joselu qui masque un peu tout. Sergi Darder qui arrive à donner un peu d'oxygène à certains moments du match. Mais sinon, le reste, c'est une équipe où on ne sait pas en fait ce qu'elle essaye de développer. Donc voilà, je les vois descendre. Je pense que le match face à Girona aujourd'hui, ce derby sera décisif. Une nouvelle défaite, à mon sens, ce serait sur le plan moral terrible. Voilà, je pense que ça finirait de les mettre au fond du seau. Ils sont sur une série de 6 matchs vraiment avec des résultats très 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 décevants. Donc voilà, je pense que si je devais donner mon trio à 12 journées de la fin, candidat à la descente, ce serait Elche, Getafe et l'Espagnol. Maintenant, voilà, 12 journées, il reste encore 36 points à distribuer, c'est énorme. Et on verra. Mais voilà, juste avant de te passer la parole, Capi, pour passer sur Villarreal contre la Real Sociedad, il y a Almeria aussi. Alors, c'est vrai qu'Almeria est une équipe qui est faible à l'extérieur, mais qui est très forte à domicile. Et on sait souvent que les équipes qui arrivent à se maintenir sont des équipes qui arrivent à engranger un maximum de points devant leur public. Voilà, c'est une équipe qui est capable de le faire. Ils ont battu le Barça, ils ont tenu en échec l'Atlético. Première journée de championnat, ils avaient aussi vraiment opposé une belle résistance au Real Madrid malgré la défaite 2-1. Je pense qu'ils sont capables d'aller chercher 2 ou 3 succès encore à domicile. Et 2 ou 3 succès, ça ferait 6 à 9 points. Avec potentiellement 1 ou 2 matchs nuls à l'extérieur, ça devrait le faire pour eux.
Et tu le disais, hein, c'est des matchs qui vont être cruciaux, puisque tu parlais du Girona espagnol aujourd'hui, du Celta Vigo Almeria demain. Si on regarde bien toutes les confrontations, avec notamment le Valence Rayo aussi qu'il y a, si toutes les équipes qui sont là dans une position un peu plus délicate venaient à gagner leur match, on se retrouverait avec un écart potentiellement entre la 9e place et la 19e qui serait de 7 points, potentiellement, hein, si tout se goupille de la sorte. C'est assez lunaire, je pense, d'avoir une telle
C'est ça.
diversité. Alors, tu parlais quand même, il y a des dynamiques, hein, qui sont vraiment différentes, hein, quand on voit que Osasuna ou le Celta Vigo pourraient presque prétendre à aller chercher cette 7e place, et de l'autre où on a des Sevilla et Valence qui sont en pleine crise. Mais quand on regarde comptablement, Ruben, avant de te demander voilà, toi aussi, tes 3 prétendants à la descente, même si on a un petit peu compris qu'Elche, c'était pareil pour tout le monde. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait si peu d'écart entre voilà, les 8, 9e, 10 places qui sont normalement le ventre mou et cette place-là de 18e, 17e où on se bat normalement pour la montée, enfin pour la descente, pardon, de façon acharnée? Si peu d'écart comptable, comment est-ce que tu l'expliques cette saison, toi?
Mais je pense que déjà, si on regarde le classement à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est quand on observe les dynamiques des équipes, on observe en fait que les seules équipes qui vraiment, pour la majorité en tout cas, vont bien, ce sont celles du haut de tableau, ce sont celles notamment du top 6, en fait, parce que je pense que cette saison, on a une Liga qui certes est toujours très disputée, mais où peut-être les gros en fait ont réussi comment dire, à moins se faire surprendre de manière générale, parce que c'est vrai que si on regarde le Barça et le Real Madrid, notamment, il n'y a pas tant de défaites que ça, même si effectivement il y a eu des matchs compliqués. Et je pense qu'en fait, tout simplement, il y a plein d'équipes comme bon, Atlético en est une, comme le Rayo aussi, même le Celta, qui en fait ont au Osasuna aussi plutôt ont la possibilité de peut-être jouer parfois plus haut, mais qui en fait ont connu les mêmes, notamment pour Atlético et le Celta, on a connu les mêmes erreurs que les saisons passées, c'est-à-dire que leur effectif et certains choix ont pas été payants du tout. Et puis je pense en fait surtout ça, en fait c'est un constat de manière générale, mais que ça témoigne d'un championnat en fait, tout simplement qui est équilibré parce que on a certes un top 5, top 6 qui se dégage et qui qualitativement est au-dessus, mais après je vais pas dire qu'évidemment le 7e ou le 8e sont au même niveau que le 18e ou le 17e, mais je pense qu'en fait il y a un équilibre en fait en termes de qualité, que on voit bien qu'il y a beaucoup de matchs quand même qui jouent sur des détails, et on voit moins peut-être de score fleuve qu'à une époque. Et on voit voilà des équipes quand même qui sont beaucoup plus en difficulté parfois pour gagner et inversement. Et je pense que voilà, même si par exemple je parlais notamment du Barça, du Real Madrid, les gros ont réussi à s'en défaire de ces équipes-là qui sont certes pas faciles mais qu'ils ont réussi à maîtriser. Je pense que des équipes voilà un peu moins taillées pour ça ont eu plus de mal. Et pour moi, c'est ce qui en tout cas explique le fait qu'il y a eu il y a un si faible écart. Parce que c'est vrai que je sais plus où je lis ça sur Twitter. Journaliste espagnol, je sais plus qui malheureusement disait ça, mais c'est vrai que la course au maintien, la lutte pour le maintien, en tout cas cette année, reste peut-être une des plus chères, enfin des plus disputées de ces dernières années. Quand on voit qu'effectivement il y a si peu d'écart, notamment sur le bas de tableau, mais imaginez que le Celta, qui quand même était 17e il n'y a pas si longtemps, maintenant n'est plus qu'à 2 points de la 7e place.
La
Voilà.
septième place, de toute façon, la septième place de ton Athletic, n'est qu'à 10 points de Valence, qui est le premier relégable.
Voilà, donc c'est pour ça. Donc non,
Hein.
moi j'explique ça qu'il y a. J'explique ça tout simplement par un championnat qui s'équilibre et des matchs qui peut-être certes sont intéressants à suivre, peut-être où il y a moins de différences en fait en termes de qualité entre les équipes. En fait voilà, on voit des matchs qui s'équilibrent peut-être un peu plus, sans forcément perdre de qualité de jeu, mais tout simplement une époque où on voit une Liga qui est peut-être plus équilibrée de manière générale et de plus en plus d'équipes qui arrivent à poser des soucis à d'autres. Parce que vraiment, moi, j'insiste sur le fait qu'il y a pas deux Ligas dans une Liga, mais il y a quand même, voilà, on voit un top 6 qui est en forme, qui enchaîne, et le reste du tableau, à part peut-être le Celta et Getafe qui vont mieux ces derniers temps, ce sont beaucoup des équipes quand même qui ont des dynamiques assez compliquées et voilà, on voit qu'il y a en tout cas deux vitesses différentes dans le championnat.
Oui, tout à fait. Et effectivement, comme tu le disais, il va y avoir deux vraies courses. La course à l'Europe, hein, avec Villarreal, Real Sociedad demain et Atlético Betis. Et puis derrière, tout peut se passer. C'est-à-dire que si Osasuna venait à gagner, il pourrait essayer d'aller jouer l'Europe. Si Osasuna venait à perdre, il pourrait être. Enfin, je parle de la semaine prochaine, hein, il pourrait se retrouver en fonction des résultats du week-end. Dans des positions un peu plus délicates qu'on aurait pu le penser. Sacha, juste pour un petit peu finir là-dessus, toi, comment tu vois cette fin de saison, notamment dans la course à l'Europe, avec l'Athletic, Villarreal ou le Rayo, qui pourraient peut-être aller prétendre à quelque chose de plus?
Ouais, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Ce sont des équipes qui sont bien placées, qui nous ont offert de bons matchs. On sent quand même que le Rayo est un peu plus dans le dur. Alors, ce sera intéressant pour y faire un tout petit écho de voir ce qu'ils vont faire à Mestalla face à un Valence dans l'urgence. Mais c'est une équipe de toute façon qui est séduisante. On sent que le projet d'Iraola il est vraiment bien. Il y a des joueurs de très très bon niveau derrière, devant. Voilà, c'est vraiment une équipe qui fait toujours plaisir à voir, qui est en constante progression par rapport à la saison dernière, notamment dans le jeu. Osasuna, ben, c'est pareil, c'est une équipe qui est en train de réaliser une saison pas historique, mais presque, hein, qui pourrait le devenir, en tout cas en cas de qualification en finale de Copa, face à l'Athletic Club, justement, la semaine prochaine. Mais oui, c'est aussi une équipe qui, bon, avec son match nul 0-0 hier, a manqué l'occasion, je pense, de mettre la pression, mais qui a des armes, c'est très en place, défensivement c'est très très fort, ça arrive à se projeter assez rapidement. Ils ont des joueurs en fait qui, je pense, tirent le meilleur d'eux-mêmes, et ça c'est aussi à mettre au crédit de l'entraîneur qui, ben, un peu à la manière d'un Imanol Alguacil, en est à 200 matchs, arrive saison après saison à faire progresser cette équipe, à la rapprocher d'un objectif, il la fait remonter. Maintenant, après 2 saisons, à se battre un peu pour rester en première division, ben là maintenant il essaye de les amener vers la course à l'Europe. Voilà, c'est un projet qui se construit petit à petit. Je pense que cette année ils sont encore un peu justes pour y arriver. Il leur manque peut-être encore un joueur décisif vraiment devant. Le Chimi Ávila est un super joueur, Abde aussi, ou Ruben Garcia. Mais voilà, peut-être qu'il leur manque un joueur d'une qualité encore supérieure pour arriver à accrocher le wagon européen. Et puis enfin l'Athletic. L'Athletic, c'est une équipe qui est frustrante parce qu'il y a vraiment des joueurs de très très bonne qualité. Alors ils ont eu des blessés aussi, mais voilà, quand on regarde leurs matchs, c'est souvent des matchs qui sont maîtrisés. Ils ont du mal à finir, à vraiment mettre le ballon au fond des filets, comme on dit. Le match face au Barça, c'était clairement ça. C'est une défaite, mais au final, il y a un coup de VAR qui annule un but d'Iñaki Williams en toute fin de match. Il y a, je crois, 2 barres. Voilà, c'est vraiment des matchs assez frustrants, je pense. Ruben en a assez parlé à travers de tous les podcasts, mais sinon, c'est une équipe qui est vraiment intéressante et solide. Je pense que c'est une équipe qui peut passer devant Villarreal sur la fin du championnat. Villarreal qui me donne l'impression d'avoir de moins en moins de certitude, avec le message de Setién qui, au début, ne passait pas. Puis finalement, on a cru penser que justement ça passait, puis c'est retombé dans des mauvais travers avec cette élimination face à Anderlecht, avec des matchs de Liga moins maîtrisés, avec une fébrilité défensive. Donc voilà, je pense que l'Athletic, sur la toute fin du championnat, peut arriver à briguer cette 6e place. En tout cas, je leur souhaite, parce que c'est une équipe aussi qui mériterait de retrouver l'Europe. Voilà, c'est un beau projet qui est en train d'être amorcé là-bas. Donc voilà, une lutte pour l'Europe assez intéressante. Et puis moi, j'ai fait quelque peu écho à Villarreal. Toi, maintenant, je pense que tu peux nous parler aussi de la Real Sociedad, hein, pour ce mini partidazo qui précédera le gros match de cette journée entre l'Atlético de Madrid et le Real Betis.
C'est ça, il y a d'abord le sixième, tu le disais, qui affronte le quatrième avant le cinquième contre le troisième. Nous, de notre côté Real Sociedad, hein, je vais parler essentiellement du club. On était sur une période très difficile avant la trêve, hein, avec une seule petite victoire et énormément de matchs nuls, justement, ou des défaites contre des équipes qui, a priori, étaient tout à fait abordables. Ce qui est vraiment regrettable quand on sait que c'est une équipe qui, cette année, a la possibilité et s'était mise dans les conditions pour aller chercher une place en Champions League. Malheureusement, il y a eu beaucoup, beaucoup de points pour moi qui ont été laissés en route, et c'est assez inexplicable, puisque les meilleurs joueurs étaient quand même revenus. Alors on a vu là le partisan de David Silva, hein, je pense que il y a beaucoup à dire de sa présence dans l'équipe, c'est-à-dire que lorsqu'il est là, on a l'impression que tout va. Et puis quand David Silva n'est pas là, c'est très très compliqué, comme si personne n'était capable de prendre un petit peu le lead au milieu de terrain dans cette équipe, malgré la présence de Brice Mendes, malgré la présence de Merino, on le disait, qui est deuxième meilleur passeur de cette Liga. Donc voilà, c'est un vrai test. On sait que cette équipe-là, elle a l'habitude de faire des bons matchs contre les grosses équipes. Et j'espère qu'elle nous le montrera demain. Parce qu'on a eu quand même voilà, des points laissés en route qui pourraient être très regrettables. Hein. On est à 3 points de l'Atlético alors qu'on était devant eux il y a un mois de cela. Le Betis est revenu pleine bourre. Hein. Le Betis qui est sur une superbe dynamique avec 3 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs qui sont plus qu'à 3 points. Et heureusement, j'ai envie de dire qu'il joue contre l'Atlético demain, parce que sinon, ça pourrait déjà mettre un petit peu le feu à la maison si le Betis avait eu un adversaire peut-être plus abordable. Là, je pense que la Real va aborder le match uniquement en se focalisant sur son adversaire du jour. Un adversaire qui lui réussit plutôt, j'ai envie de dire. Autant on a quelques chats noirs, autant Villarreal, c'est une équipe où on a un peu plus de facilité. C'est un match à l'extérieur, ça sera très difficile. Ça va aussi beaucoup dépendre de la performance offensive de cette équipe. Hein. On l'avait tous suivi là, avant la trêve, une élimination contre la Roma, ou une équipe qui se procure des occasions mais qui est incapable de mettre le ballon au fond. Donc il va falloir que Carlos Fernandez, Mikel Oyarzabal, qu'on a un petit peu suivi là, pendant la trêve, qui a quand même du mal hein, depuis son retour de blessure, il lui faudra du temps. Ou Sorloth qui joue blessé depuis près d'un mois avec une douleur au genou, et en fait il n'y a personne pour le remplacer. Il va falloir un petit peu planter devant, parce que là, ces derniers matchs, ça repose sur la créativité, je le disais, de David Silva ou de Kubo, qui reste parfois un peu brouillon dans la finition. Donc malheureusement, face à un Villarreal comme cela, j'ai envie de voir. Après, c'est vrai que pour moi, allez, si je devais donner un petit prono, ce serait une victoire très difficile, 1-0 ou 2-1 de la Real Sociedad, parce qu'il faut absolument prendre ses points, on le disait, pour remonter sur l'Atlético. Après, c'est Atlético Betis hein, qui pourrait être assez marrant, puisque en fonction du résultat de la Real Sociedad et celui du Betis de l'autre côté, les deux équipes pourraient se retrouver à égalité, ou à l'inverse, la Real Sociedad pourrait remonter sur l'Atlético. Donc je pense que, et c'est un petit peu d'ailleurs le message qu'on fait passer depuis le début de ce podcast, ça va être très intéressant la semaine prochaine d'analyser tout ça et de voir tout ce qui aurait pu bouger au niveau du classement. Parce qu'à part les 2 premières places, tout peut un petit peu bouger, hein, on le disait. Et pour finir, je pense vraiment que ce match-là va être crucial pour la suite de la saison. C'est-à-dire que à partir du moment où l'équipe est capable de gagner contre un membre du top 6, il y a toujours dans les têtes cette certitude qu'on peut aller chercher une place européenne en Champions League, qui est vraiment l'objectif pour moi, vu la saison et vu la place qu'il y a. Par contre, une défaite qui serait couplée à une victoire du Bétis, ça ne serait pas du tout de bon augure. Et ce Bétis-là, on le disait, est en très bonne forme. Donc, je ne sais pas vous ce que vous voyez comme résultat entre le Bétis et l'Atlético. Moi, j'ai un petit peu de mal à le savoir, parce que c'est pour moi les deux équipes qui sont plus en forme sur ce dernier mois, avec peut-être le Celta aussi qui carbure bien. Donc voilà, je pense que ce parti d'assaut entre l'Atlético et le Bétis va être très agréable à suivre. Et on sait que voilà, Antoine Griezmann pourra peut-être aider son ancien club son ancien club formateur. À vous de me dire ce que vous voyez sur ces deux matchs-là. Je pense que ça va être du beau spectacle. En tout cas, ça va être décisif et déterminant pour la suite de la saison. Pour moi, tout se joue quasiment ce week-end.
Ouais, bah, de toute façon, tu l'as bien dit, c'est des matchs en fait qui sont directement liés en fait de par leur destin, de par les objectifs de chaque équipe. Après, oui, par rapport à ce que tu disais entre la Real et puis Villarreal, moi je rejoins globalement ton avis. Alors, je vois un match assez équilibré qui pourrait se solder sur un match nul qui bon, vraisemblablement n'avantagera personne et ne fera plaisir à personne, mais en même temps, c'est ce qui me semble être le plus logique parce que ce sont deux équipes qui voilà, certes, en tout cas, enfin, Villarreal n'a pas une certitude incroyable non plus depuis quelques temps. La Real va mieux, même si c'est vrai qu'il y avait eu un petit coup de mou en Ligue 1 un certain temps. Il y a eu cette élimination aussi en Europa League avant la trêve, tu l'as dit. Après, c'est une équipe qui reste quand même dans la course. Et moi, je pense que les voir se neutraliser ce week-end, ce ne serait pas surprenant. Et en tout cas, vu de ce qu'on a vu dernièrement chez ces deux équipes, ça me semblerait même logique. Et après, je vais pas revenir sur ce que tu as dit parce que ça me semble complètement logique. Pour parler rapidement de l'autre match, avant de laisser la parole à Sacha, ce match, bon évidemment, Atlético Betis, je pense qu'il va être pareil. Voilà, tu disais que tout jouait enfin, en tout cas, beaucoup jouait sur cette journée. Et moi, je te rejoins complètement parce que Atlético, en cas de victoire, a moyen de, en cas de victoire surtout, et si jamais la Real ne gagne pas, moyen de presque s'assurer un top 3, parce qu'après, je pense que ça serait très compliqué de revenir, et en même temps de pouvoir rêver d'une deuxième place. On a vu que Mario Hermoso cette semaine avait dit notamment que l'objectif que se fixait le vestiaire de Atleti, c'était une deuxième place. Donc moi, après, je vois cet Atlético Madrid qui est quand même supérieur au Betis. C'est vrai que le Betis va bien ces derniers temps, mais pour avoir regardé certains de leurs matchs, je trouve quand même que ce sont des matchs assez poussifs. Alors après, évidemment, ils ont perdu quelqu'un comme Fekir, qui évidemment est un élément fondamental dans le dispositif de Pellegrini, mais c'est vrai que si on regarde les dernières victoires, elles sont importantes, certes, mais ce sont des victoires compliquées. Je pense match contre Valladolid, le match contre Elche, qui d'ailleurs a fait beaucoup de polémiques aussi, mais qui était en soi une victoire importante, mais voilà, qui avait été vraiment difficile à décrocher. Et puis là, oui, si avant la trêve aussi cette victoire poussive contre Mallorca, au final, ce sont certes des points qui sont pas perdus, des points qui sont pris même, mais c'est vrai que ce Betis, en tout cas, dans le contenu, même si c'est moins impressionnant qu'à une certaine période, arrive toujours à assurer les points. Mais voilà, en face, quand même, d'un Atlético qui, non seulement dans le jeu, non seulement dans la confiance, non seulement dans les résultats, va pour le mieux. Voilà, j'ai du mal à voir Atlético être surpris par le Bétis, même si évidemment rien n'est à écarter. Donc voilà, disons qu'au terme de cette journée, je vois Atlético peut-être prendre un peu plus le large pour la troisième place et pourquoi pas la deuxième, même se rapprocher de la deuxième. Et après, pour ce qui est de la course à la quatrième place, en tout cas, une lutte qui reste très figée et en tout cas avec deux équipes et même trois si on rajoute Villarreal qui auront encore beaucoup à jouer et à se départager dans les prochaines semaines.
Ouais, mais moi je suis vraiment d'accord avec ce que vous venez de dire pour la Real Sociedad et pour l'Atlético de Madrid. Moi je pense que c'est le week-end où les deux vont quand même mettre les choses au clair et se positionner comme les deux vrais candidats aux deux places restantes pour la prochaine Ligue des Champions. Je pense que la Real Sociedad a tout pour battre ce Villarreal de Quique Setién. On le voyait en une ce matin de l'édition spéciale de Mundo Deportivo. La Real Sociedad reste sur 3 victoires sur 4 lors de ses derniers déplacements du côté de la Ceramica. C'est vraiment une équipe qui a en réussite hein, contre le sous-marin jaune, contre les équipes un peu de Quique Setién aussi. Donc voilà, je pense qu'ils sont vraiment capables d'aller faire le gros coup là-bas face à un Villarreal qui est un peu malade. Donc Voilà, je pense que pour toutes les raisons que vous avez évoquées, la Real Sociedad va s'imposer. Et puis enfin, pour parler un peu de l'Atlético, je pense que pareil, c'est une équipe qui va vraiment arriver à se positionner comme potentiel deuxième de cette Liga. Il y a un vrai regain de forme. Eux aussi, mine de rien, une fois que l'échec européen a été digéré, on se rend compte qu'avec un match par semaine, c'est quand même une équipe qui physiquement est au top et nous a sorti de très très belles performances. Hein, les matchs face à Valence, face au Sevilla, vraiment avec de très très belles actions, une équipe qui se comprend de mieux en mieux. Ça fait écho un petit peu aussi aux meilleures heures du Cholismo, et il y a une stat qui ne ment pas. Alors je suis désolé pour les fans du joueur, mais depuis que João Félix a quitté l'Atlético de Madrid en Liga, ben c'est aucune défaite. Il me semble que c'est 6 victoires pour 3 matchs nuls. Voilà, c'est un Atlético qui avait peur de ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions et qui aujourd'hui se prend à rêver de remonter le Real Madrid pour la deuxième place. C'est une équipe qui génère beaucoup plus de jeux, c'est une équipe qui a beaucoup plus d'envie, c'est une équipe dans laquelle Antoine Griezmann, on en a parlé, excelle à nouveau, car ben, comme à son meilleur moment en équipe de France, il est un peu l'étincelle de tout un système. C'est vraiment lui le joueur différentiel, lui le joueur qui ben sur qui tout repose. Et quand il est dans ces circonstances-là, pardon, ben voilà, c'est son meilleur visage qui réapparaît. Il est vraiment maintenant le seul et unique leader technique, je pense, de cette équipe, et même plus que leader technique même. Et du côté du Bétis, malheureusement, il y a une constance dans cette équipe qui est une très très belle équipe. C'est que quand Fekir et Canales ne sont pas là, en général, ça se passe mal. Et ça va être le cas
Ouais.
parce que Canales est suspendu 4 matchs. Nabil Fekir est out jusqu'à la fin de la saison. On sait que c'est une équipe qui a vraiment des joueurs de très bonne qualité. Le jeune Rodri, par exemple, réalise une très bonne saison. Mais pour ce genre de match vraiment décisif pour l'obtention d'un billet dans le top 4, devoir faire sans ses deux meilleurs milieux créatifs, c'est vraiment une tâche très très compliqué, je pense, pour les hommes de Pellegrini. Voilà, c'est une équipe qui est un peu aussi dans le dur au niveau des buts marqués. Voilà, il n'y a pas beaucoup non plus de buts ces derniers temps. Borja Iglesias, même si c'est un peu remis, a du mal depuis cette Coupe du Monde dans laquelle il n'a pas été convoqué. Donc voilà, en plus avec l'Espagne, il a été un peu mis de côté par Luis de la Fuente. À voir ce que ça peut donner pour ce match. Mais en tout cas, voilà, je note quand même un net avantage à la Real Sociedad et à l'Atlético de Madrid, qui sont, à mon sens, même sur la saison en elle-même, deux équipes vraiment supérieures à Villarreal et au Real Betis, qui sont très bons aussi. Et juste aller pour faire un dernier écho à la Real, c'est vrai qu'il y a eu cette baisse de forme alors que les joueurs étaient sur le retour, mais je pense qu'elle s'explique aussi par cet enchaînement entre la Copa puis l'Europa. C'était une déception, mais voilà, c'est une équipe qui avait une forme extraordinaire, qui avait beaucoup de blessés. Les joueurs qui ont substitué les joueurs forfaits ont tout donné, et je pense que ça a coïncidé avec ben, un retour, une reprise de forme des revenants. Et ben, des joueurs qui étaient cramés, qui étaient sur le banc. Voilà, un petit, comment dire en Espagne, un bajón físico, voilà, avec des joueurs qui ont un peu tout chuté au même moment, et puis des matchs aussi qui ont mal tourné. On pense à la défaite face à Valladolid, tu vois, une Real Sociedad qui a 40 occasions, qui n'arrive pas à mettre une au fond, et au final qui prend un but sur la seule tête de l'adversaire. Donc voilà, c'était un mauvais moment, mais au final, ils ont réussi, je pense, à bien utiliser le solide matelas qui s'était constitué. Et non, je pense que voilà, ce week-end devrait, à mon sens, consacrer l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad comme membre du top 4 à la fin de saison.
Bah écoute, c'est une façon, j'ai envie de dire parfaite pour terminer ce podcast de nous annoncer la Real en Champions League la saison prochaine. Non, sans plaisanter, je pense que c'est un championnat qui va nous apporter encore beaucoup, beaucoup d'émotions sur cette fin de saison. On le disait, cette journée va être décisive à tous les niveaux, que ce soit pour la course à l'Europe, que ce soit au niveau de la relégation. Je pense qu'il va y avoir un gros débrief à faire la semaine prochaine de tout cela. Et même, on le disait, peut-être autour de la journée 30, pour voir où en est le Barça. Si jamais le Barça de Sacha est déjà quasiment assuré d'être sacré ou pas. Et puis, Ruben, on verra aussi où en est l'Atlético en Copa, puisque tu le disais, il y a un match qui est très important qui arrive la semaine prochaine. Donc c'était des échéances à ne pas manquer. En tout cas, merci à vous deux de nous avoir éclairés sur ce sujet-là, de cette 27e journée qui, on le disait, regorge certainement de péripéties et de changements au classement. C'était toujours un plaisir d'être avec vous. Merci à tous qui nous écoutaient. Et puis on vous dit à très bientôt et profitez.
Merci beaucoup. En tout cas, on espère que l'épisode vous aura plu et à bientôt.
Exactement. Très très bonne 27e journée de Liga à vous tous et un grand plaisir.